Un tango, une danse, un baiser.
Et du bouddha, pépé, pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis 21.
Marie Richeux.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Avant d'être un lieu dédié à l'image, le Bal, impasse de la Défense à Paris 18e, était un cabaret, un hôtel d'amour et une salle de bal. Au lieu de fêtes et de plaisirs, cette guinguette s'appelait Chez Isis et l'on y rencontrait une clientèle venue s'encanailler aux portes de Paris. Des années folles, de la musique, de la danse, des visages empourprés, il ne reste aucune image de cet endroit qui puisse faire archive. Aujourd'hui, c'est un lieu d'exposition et d'éducation à l'image, c'est aussi un café, non loin de la place de Clichy, qui offre d'autres fêtes. Pour la première fois, la directrice Diane Dufour offre une carte blanche à une artiste, et c'est à vous, Batia Sutter. La première partie de votre exposition se vit comme un possible retour rêvé de ces corps et visages du siècle dernier, tandis qu'au sous-sol, dans une seconde partie, un diaporama hypnotique nous plonge dans des images que vous empruntez de multiples sources, recadrées, retravaillées, et ceci depuis des années. Bonsoir à vous, Batia Sutter, et merci d'être là. L'exposition s'appelle Radial Grammar, elle est visible au Bal à Paris, donc jusqu'au 26 août 2018. Je salue aussi Marlies Krüger qui traduit les propos vers le français ce soir. Et puis je dois indiquer d'autres actualités, par exemple au Centre culturel suisse, toujours à Paris, c'est une autre exposition qui s'appelle Soul Summary. On peut aussi voir une installation sur le quai 14, je crois, ou 24, enfin l'un des quais de la gare Montparnasse. C'est aussi à Paris et c'est proposé par Gare et Connexion. Et enfin, un très très beau livre publié en copublication avec Le Bal. Musique. Des musiciens vivants qui sont évoqués par Maurice et son orchestre, Batia Sutter, c'est une manière de nous emmener dans l'histoire de ce lieu où vous proposez l'exposition Radial Grammar. Je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que le Bal offre une carte blanche et c'était pas possible de faire autrement avec vous, Batia Sutter, parce que vous concevez souvent vos expositions comme des œuvres in situ qui travaillent à partir de l'histoire de ces lieux. Alors comment avez-vous imaginé la première partie de cette exposition ?
J'y suis venue et j'ai regardé un petit peu partout avec cette invitation de carte blanche. Et j'étais fascinée par les caves, par les sous-sols. En fait, je voulais savoir ce qui s'était passé là-bas. Et je ne pouvais plus m'empêcher d'y penser. Ça restait une question. Comment est-ce que c'était avant ? Qui s'était promené là-dedans,
en mooie momenten zich afgespeeld
hebben. Quel drame s'était déroulé là-bas et quel merveilleux moment.
Proberen terug te halen op een soort hypothetische manier.
J'ai essayé de récupérer cela d'une manière un petit peu hypothétique.
En wat ik ook wat ik heel fascinerend vond is eigenlijk
dat het fascinant.
En een soort tegenstrijdig iets was.
C'est qu'il y avait une sorte de contradiction.
Van een white cube, waar gewoon hele strakke kunst getoond wordt. En dat het vroeger eigenlijk
il y avait un art très abstrait, alors qu'avant c'était tout à fait différent. L'art était totalement différent.
À partir de quoi avez-vous travaillé, puisque je le disais en introduction, au moment où le bal, ce lieu d'exposition, a ouvert ses portes, ils ont précisément produit des fausses archives parce qu'ils ne retrouvaient pas d'images de cette époque-là. Alors vous, vous avez travaillé à partir de quoi ?
Ja, eigenlijk op basis van mijn verbeelding.
En fait, sur base de mon imagination.
Mijn beslissing die was eigenlijk al duidelijk
ma
voor ik door had dat het eigenlijk het centrum was ook van les années folles.
Qu'avant d'aller,
heel veel over geschreven,
que c'était le centre des années folles et qu'on en avait déjà beaucoup parlé.
Mais j'ai décidé de
puiser mes ressources dans mon imagination, dans l'immigration italienne
des années 20.
Et en fait, ça a commencé par une promenade que j'ai faite dans la rue.
Oude schoenen zag.
Et j'ai vu beaucoup de chaussures.
Dat er een soort optie was dat je niet wist waar die schoenen vandaan komen, uit welke wereld.
Et en fait, on ne savait pas d'où venaient ces chaussures, de quelle région du monde venaient ces chaussures. Donc c'est une paire de chaussures noires qui joue toujours un grand rôle.
Op de ene manier dat je dat je wil be prepared, dat je wil er goed uitzien. En op de andere
ces chaussures
manier,
qui font qu'on veut avoir l'air bien, mais aussi que ça touche toutes les couches de la population. Ja. Tout le monde veut avoir l'air
zo
bien.
Zo kwam de straat eigenlijk de tentoonstellingszaal binnen als begin.
En en fait, c'est la rue qui est entrée dans l'exposition, et puis ensuite, c'est moi qui ai rempli, j'ai complété.
Wat er toen in de lucht hing, want ik ging allemaal wetenschappelijke boeken.
Et alors j'ai beaucoup appris de ce qui se passait à l'époque parce que j'ai été voir dans les livres d'histoire, dans mes propres archives. Et j'ai voulu comprendre ce que c'était que l'imagination à l'époque, le surréalisme, Marcel Duchamp. Donc en fait, ça a été un très beau parcours pour moi pour mieux comprendre cette époque. Aussi les chocs culturels. Ce qui nous ramène directement à aujourd'hui.
Terug te kijken, om te leren ook,
mais je pense que c'est bien de regarder le passé pour apprendre ce que c'était que le process de l'industrialisation,
verloren waren ook in,
que les gens étaient en fait un peu perdus.
Yeah.
Précisément, parlons d'aujourd'hui, Patia Sutter, puisque vous évoquez ces chaussures. Alors peut-être on peut dire que dans ce quartier-là, notamment dans l'avenue qui jouxte la petite impasse de la Défense, il y a beaucoup de magasins d'occasion où on peut en effet trouver des chaussures de seconde main dont on ne connaît pas les propriétaires, qui sont achetées par des personnes qui n'ont pas forcément toujours l'argent pour s'acheter des chaussures neuves. Et puis un petit peu plus bas, j'évoquais la place de Clichy et puis d'autres cabarets, des endroits de musique, des endroits aussi de prostitution, des endroits de fête. Mais encore, ce qu'on peut dire de cet endroit de Paris, c'est que c'est un endroit encore populaire, où certaines populations sont mélangées avec des origines différentes. Vous avez été imprégné par ça, et puis vous êtes revenu aux années 30, comme s'il y avait pour vous quoi, une sorte de correspondance possible ?
Ja, pour moi, het was heel boeiend.
C'était passionnant pour moi
de regarder,
de voir qu'il y ait des gens qui visitent ce genre de magasin de seconde main parce qu'ils ne pouvaient pas payer mieux. Et que ça peut être très tendance de trouver des vêtements trendy, mais que ça peut être une nécessité de voir d'où viennent ces gens.
Et alors, dans cette première installation, les parois, quasiment toutes les parois, sauf une, de la première salle, sont recouvertes par des images en rectangle, sur la totalité du mur. La plupart des images montrent des visages, mais pas que. Alors, commençons par les visages. À quelle source les avez-vous empruntés ? Où êtes-vous allé les chercher ? Et pourquoi vous ont-ils arrêté ces visages-là ?
Ja, dat was een thema, daar was ik al wat langer mee bezig.
C'est un thème qui m'occupe depuis plus longtemps.
En voor mij, dat
en fait, il y a des thèmes qui reviennent tout le temps chez moi.
Dat was voor mij eigenlijk al een thema waar ik wat langer mee bezig was.
Et
en dat
les
was
portraits m'occupent depuis plus longtemps.
Moment, et ook c'était le moment parfait
de développer ce thème-là.
Of een soort menigte,
en fait, pour moi, il s'agit d'une sorte de public,
une foule,
où les gens qui pourraient attendre, en fait, à l'entrée de la salle de bal.
Mais ce qui m'intéresse surtout,
c'est que ça traverse toute l'histoire.
Gezichten die mij gewoon iets doen of en die fait, mij fascineren. Ik probeer dan zelf achter te komen waarom wij op bepaalde gezichten wel een emotie hebben, dat een emotie loskomt.
Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que certains visages provoquent une émotion et certains non.
Wat ik er heel interessant aan vond is ook om een soort in contact te komen met gezichten of sculpturen.
C'est d'entrer en contact avec des visages, avec des sculptures d'il y a des siècles. Donc aussi des visages
Pierre,
des travaux du Louvre, des œuvres de la culture romaine, latine.
Te zien om of het mogelijk is om daar eigenlijk ook weer de persoon achter dat kunstwerk
si c'est possible
terug te zien.
De retrouver la personne derrière l'œuvre d'art.
En daarvoor ging ik de gezichten gewoon combineren met elkaar.
Et c'est pour ça que j'ai combiné les visages les uns avec les autres.
Dat alsof ze weer wakker worden uit pour, hun context.
En quelque sorte les réveiller,
context,
les retirer de leur contexte historique.
Iets ouds, een stoffig zien, maar dat
que
we echt het gezicht bekijken.
Une œuvre poussiéreuse seulement, mais aussi un portrait, un visage, comment la personne regarde, ja, comment elle se tient.
Dat deed ik door verdubbelingen in de foto toe te passen.
Et
dus
ça, je l'ai fait en faisant des doublages, en travaillant les photos, en manipulant les photos, mais aussi en les opposant, en les plaçant par trois ou quatre, et à les référer à d'autres groupes de quatre visages, par exemple.
Pour rester sur ces visages et ces corps, parce qu'ils sont des présences très puissantes, en effet, parfois vous faites simplement, enfin simplement non, mais en tout cas vous produisez une forme de vibration de l'image qui fait que ces parties de corps et ces visages atteignent une présence extrêmement troublante. Moi j'ai été frappée par le fait qu'il y avait presque du désir qui circulait dans cette première salle, une sorte de trouble quasiment physique. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez?
Ja, dat is precies wat mij eigenlijk interesseert.
Oui,
waarom
c'est précisément ce qui m'intéresse.
Onze hersenen of onze perceptie
pourquoi notre cerveau ou notre perception réagit de cette manière à certaines situations, à certaines images et pas à d'autres.
Et
je trouve ça aussi très intéressant donc dans le contexte des médias sociaux, cette espèce d'esclavage qu'on a par rapport à des autoportraits. Des portraits. Donc notre réaction à des visages, je la trouve fascinante. Quand il y a une image, il y a une figure, alors toute notre attention est portée vers ce visage humain.
En precies, ja, dat wat jij zegt, dat het begint bijna te duwen of te ademen. Dat er
que
een soort
le visage commence à presque à vibrer, qu'il y a une réaction dans notre reconnaissance. C'est précisément cela qui m'intéresse.
Et puis il y a sur une table quasiment posée au sol un agencement de boîtes en plastique. Alors ça va être des espèces de contenants de biscuits ou bien complètement transparents ou bien à l'inverse extrêmement opaques, noirs. Ça passe aussi par des teints plutôt bruns. D'un seul coup, il y a quelque chose, je sais pas, du contenant, quoi. Tous ces visages sont des corps comme du contenu, presque des âmes. Et puis là, c'est quelque chose qui les contient. Qui les entoure. Que font ces boîtes en plastique au milieu de la première salle, Mathias Sutter?
Die plastique doze, dat is eigenlijk voor mij een mooie tegenhanger voor de gezichten.
C'est en fait une sorte de contrepoids très joli, beau, à ces visages. Quand on entre dans la salle, on voit pas que des portraits. On dit, des visages.
Nog een draai geven.
En fait, ça leur donne un autre tournant.
Dat heeft verschillende lagen.
À ces portraits.
Dat is aan de ene kant heb je de laag van de tijd, donc, dat je hele oude portretten
couches,
hebt tegenover
par exemple,
hele nieuwe
la couche de très vieux visage, par rapport à ces contenants très modernes, très contemporains, quotidiens.
Donc alors on a
un espèce de clash entre les deux choses, les deux aspects, parce que d'un côté on a tous ces gens, toutes ces personnes, et puis de l'autre côté les conservations,
dat heeft heel veel met het alledaagse leven te maken. Dus ik vond het heel interessant
om dat
tegenover elkaar te zetten.
Donc je pensais très bien, je trouvais que c'était bien de les mettre ensemble, ces deux aspects.
De différentes manières. Ja, ik vind dit plastic bakjes, dat is een verzameling die ik zelf aangelegd heb door
de laatste vijf jaar. C'est une collection que j'ai établie les cinq dernières années.
En voor mij is het gaat ook over de diversiteit en over.
Parce qu'il s'agit aussi de la diversité et de l'infinité de la diversité. D'un côté, ça peut être négatif si on le regarde du côté du plastique, mais d'un autre côté, c'est de la culture à l'état pur. C'est notre culture. Les gens s'asseyent et ils décident de quoi va avoir l'air cette boîte, combien de trous il y a là-dedans, ce qu'ils en font. Alors, est-ce que, après, on peut réfléchir, est-ce que ces boîtes sont vraiment nécessaires? Le design de la boîte, bon, toutes ces choses-là, je les trouve aussi très intéressantes.
D'ailleurs, ce sont des choses qui vont se développer au fur et à mesure que on traverse votre exposition en Batia Sutter, à la fois ces notions-là d'infinité, de diversité et de nécessité. Pour terminer sur cette première salle dont je disais tout à l'heure que c'était une forme de possible rêverie du retour de ces corps, mais aussi peut-être de l'art, de l'époque des années folles. Je voudrais que vous nous parliez des images qui ne sont pas des visages, qui ne sont pas des corps, mais qui sont, par exemple, des peintures égyptiennes, des ponctions sur des sculptures. Est-ce que c'est aussi pour dire qu'il y a une forme de, au-delà des corps qui reviennent, une forme d'histoire de l'art, d'une certaine manière?
Oui. Wat heel belangrijk is, is ce in qui est zin,
très important
dat je een soort regelmaat opbouwt van,
de construire une sorte de régularité. Donc qu'on impose des choses et qu'il y a une sorte de vague de quelque chose qu'on veut dénommer. Et à un moment, il faut déranger cela, parce que sinon ce n'est qu'une collection morte.
Ja, dus zo is het een soort surfen op een soort herkenning van
donc,
je
en
van
fait,
je,
van je on vogue, on surf sur la vague de l'imagination,
dat je volgt en dat je begrijpt en dat heel logisch is en dat je dan eigenlijk door iets abstracts logique, of dat je de regel doorbreekt
et puis
met qu'on een ander beeld dat je
de
dat je de geest weer wakker roept
pour en quelque sorte éveiller à nouveau l'esprit.
Dus je moet ook altijd weer afwijken en iets onlogisch inbouwen.
Donc en fait, il faut dévier de ce qu'on a construit et y introduire quelque chose d'illogique.
La photographie est un moyen d'expression moderne, comme l'eau fort, comme la litho, comme le dessin pratiqué par les anciennes. Un peintre m'a demandé un jour, pourquoi vous ne faites pas des eaux fortes? Pourquoi vous ne faites pas la litho? J'ai dit, mais avec la photo, je peux faire tout ce que vous faites par des méthodes plus anciennes. Et c'est une méthode contemporaine qui va prendre son valeur. Et il a pris son valeur maintenant, puisqu'on m'accepte comme photographe. Et je peux faire les mêmes choses en photographie que je peux faire en peinture. Il n'y a pas de limite. On appelle ça quelquefois une tricherie. Mais moi, je dis, la tricherie d'aujourd'hui sont les vérités de demain. Comprenez? Alors, quand je vois un visage qui m'intéresse, la première réaction, c'est de faire un portrait de ce visage. Mais avec l'appareil photographique, parce que c'est plus direct pour moi. J'ai contrôlé assez pour pouvoir obtenir exactement ce que je veux de ce visage. L'éclairage, je peux provoquer l'expression que je veux. J'aime pas le visage souriant, ça veut rien dire. Ni le visage avec des moustaches. Ça cache le caractère, n'est-ce pas? Une barbe, oui, ça va. Ça cache des défauts quelquefois. Les yeux sont les choses qui changent le moins dans notre vie. De notre enfance jusqu'à notre vieillesse. Les yeux, ils grossissent pas, ils grandissent pas, ils rapetissent pas. c'est tout ce qui est autour, quelquefois, qui rapetissent les paupières, n'est-ce pas, la pose. Mais les yeux eux-mêmes ne changent pas. Pour moi, vous savez, après tant de portraits que je fais, j'ai décidé que les choses ne sont pas du tout ce qu'on voit. Le caractère, l'expression, certains visages cachent ce qu'il y a dedans. Alors, je ne pense pas à se faire sortir ça, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas un magicien.
On entend ici une archive de Man Ray, on est en 1965, qui s'exprime sur la photographie et ensuite, plus précisément, sur son rapport au visage. Commençons par le début de cette archive, Batia Sutter. Il dit, Man Ray, d'une certaine manière, avec la photographie, j'ai la plus grande liberté qu'il soit pour faire ce que je veux, c'est-à-dire aller même au-delà de la peinture, au-delà de la gravure, pour produire l'image que je souhaite. Est-ce que c'est le rapport que vous-même vous entretenez avec la photographie ?
Oui, certainement. Je mélange des photos avec des photos de sculpture, avec des peintures. Et j'adore faire un clash entre ces différentes images. Et j'aime bien voir quand il y a un équilibre entre ces différentes images. Et en effet, je considère cela comme une immense liberté de pouvoir apposer ces différentes choses, de les laisser parler entre elles.
Vous avez, avec le temps, probablement développé des techniques, des façons de faire pour que votre photographie soit si proche de la matière. On parlait tout à l'heure de la vibration que vous obtenez, la manière dont vous rendez les corps et les visages si présents, quasiment désirables. Comment est-ce que vous avez obtenu ce rapport-là au médium photographique ? Et est-ce que ça a une forme d'histoire, d'évolution dans votre manière de faire ?
Une manière de faire ?
Oui,
il y a différentes raisons pour cela. Mais en fait, au début, ça a beaucoup à voir avec le fait que j'ai beaucoup peint et dessiné toutes les photos. Et plus tard, dans les années 90, j'ai commencé à les manipuler sur mon ordinateur parce que tout à coup, c'était possible. Mais en fait, j'ai aussi très longtemps imprimé mes photos. Donc j'ai joué avec la lumière, avec le développement. J'ai pu influencer beaucoup la manière dont les photos apparaissent. Donc, en fait, on cherche la courbe parfaite, la gradation, pour que la photo soit optimale. Et donc, évidemment, Man Ray était un maître dans cet art-là.
À quoi renvoie le titre de cette exposition, Radial Grammar?
Radial Grammar.
Dat is een ook weer een soort thema in mijn werk wat telkens weer terugkomt.
C'est aussi un thème récurrent dans mon œuvre.
Dat is iets waar ik maar niet van af kan blijven.
Et en fait, c'est quelque chose qui revient à chaque fois, qui ne quitte jamais. En fait, je filtre cela aussi sans arrêt dans toutes mes archives pour mes œuvres à venir, mon travail à venir. Donc c'est très étrange avec ces courbes, avec ces choses circulaires. Parce qu'en fait, c'est un problème, hein, toutes ces choses circulaires. Parce qu'une photo ronde, elle peut imploser. Et en fait, elle est enfermée sur elle-même. Et ça peut être un problème. Mais à travers toute notre histoire, l'être humain réagit très fort sur des choses rondes. Et ça m'intéresse beaucoup, ça me fascine même. Et en fait, c'est une enquête éternelle. Donc c'est la grammaire du principe rond dans les images.
On y reviendra tout à l'heure parce qu'en effet, tout ce qui est circulaire, rond, se retrouve dans le diaporama et la série d'images que vous présentez au sous-sol de cette exposition au bal. Mais peut-être pour vous et nos auditeurs et auditrices qui se souviennent de la fin de l'archive de Man Ray, cette archive qu'on vient d'entendre, datée de 1965, il évoque son rapport au visage et il dit d'une certaine manière « moi je fais ce que je veux ». avec un visage. Je ne me contente pas simplement d'en faire le portrait. On pourrait dire avec nos mots d'aujourd'hui qu'il le manipule pour lui-même s'exprimer. Comment vous, vous décririez votre propre rapport au visage, que vous ne photographiez pas directement, mais que vous photographiez dans des livres ou d'autres sources que vous trouvez?
En fait, j'ai une relation un peu problématique avec le corps parce que j'ai la tendance justement de travailler de manière très abstraite. Je trouve que les gens représentés en image, c'est un petit peu envahissant et puis tout le monde fait ça et moi je veux un petit peu m'en éloigner. Mais les visages, comment est-ce qu'on peut rendre un visage intemporel? C'est là qu'on essaie de voir quelle est la personne qui se cache derrière l'image. Ça, c'est le thème qui me fascine et c'est pour ça que je l'ai traité. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant de la poser justement à tout ce côté rond, circulaire.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Nous sommes allés de haut en bas. On ne peut pas dire que ce soit ce à quoi je m'attendais. Mais il y avait nous. Pas mon amour, je ne te savais pas, mon amour, seulement de passage, seulement de passage.
Un seul livre, quand vous dites Mnemosyne, le dernier ouvrage, c'est pas un ouvrage, c'était plutôt un work in progress. C'était un ouvrage au sens de quand on est à l'ouvrage, voilà. C'était une œuvre à l'œuvre. Et donc, cet atlas Mnemosyne, c'est une sorte de choix parmi les centaines de milliers de photos de sa photothèque, le choix de quelques images, 1000 à peu près, c'est pas beaucoup, 1000, faut pas croire. 1000 images. Un historien de l'art voit ça en une demi-heure, hein, 1000 images, ça se feuillette vite. C'est un choix donc très précis et où il essaye de planche en planche, donc ce sont des montages tabulaires d'images, il essaye de planche en planche de poser des problèmes. Je me suis concentré sur cette planche 42, elle concerne les lamentations. Les lamentations devant les morts qui donc supposent des gestes, un certain nombre de gestes. Et on peut dire que Warburg, c'est plus un anthropologue des gestes et des images qu'un historien de l'art au sens strict.
C'est la voix de Georges Didier-Huberman dont pas la peine de crier sur France Culture en 2012, évoquant Abbé Warburg et cet Atlas Mémosine. Batia Sutter, évidemment, lorsqu'on voit votre travail en ce moment exposé au bal à Paris, on ne peut pas ne pas penser à Abbé Warburg. Alors, peut-être nous dire à quel moment vous découvrez son travail. Est-ce qu'il vient simplement confirmer et éclairer une pratique que vous aviez déjà, ou est-ce que il l'initie, ou il vous confirme, ou est-ce qu'il initie une nouvelle façon de faire?
Nou, dat was, ik heb hem ontdekt, toen heb ik
je l'ai découvert. Mijn eerste
boek, de Parallele Encyclopédie, het blauwe boek.
Quand j'ai conçu mon premier livre,
En fait,
j'étais déjà assez loin et j'ai fait une exposition à ce moment-là. Et puis alors, j'ai eu un email de gens en Italie qui demandaient quels étaient mes rapports avec Abbé Warburg dans mon travail. Et en fait, je n'avais jamais entendu parler. Et j'ai été regarder sur Google et j'ai eu un grand choc. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais alors j'ai commandé tout de suite ces livres, j'ai étudié, je les ai étudiés, j'ai laissé mûrir la chose et donc j'ai dit c'est formidable, on se ressemble dans notre manière de penser, dans notre intérêt pour les images. Et donc j'en ai vraiment profité et j'ai aussi lu le contenu, comment est-ce qu'il a fait, comment il a fait. Et alors j'ai pensé, bon, il faut que je continue, parce que je suis déjà occupée, et puis voilà, il faut que je termine. Et donc j'essaye d'accepter qu'il a fait son œuvre, et moi j'ai continué à ma manière. Et donc il y a beaucoup de points communs, mais ce n'est pas par lui que j'ai commencé à travailler de cette façon.
Précisément, vous dites, on se ressemble dans notre manière de penser. Je trouve ça assez beau parce que, en effet, quand on passe du temps dans votre exposition, on a vraiment l'impression qu'on peut être en contact avec la manière dont vous pensez, la manière intuitive dont vous organisez les images, non seulement dans l'espace, mais aussi, on a l'impression, dans votre tête. Comment est-ce que vous décririez, Batia Sutter, ce que c'est que votre manière de penser?
Oh, dat is heel moeilijk.
Bon, ça c'est difficile. Parce que je le fais de façon vraiment visuelle. Mais en fait, je m'imagine que c'est comme d'écrire un livre. Que les écrivains disent qu'il y a des bons moments où en fait le livre s'écrit comme par lui-même. Et qu'il ne faut plus que le conduire un petit peu, le limiter. Et pour moi, c'est pareil. Il y a une idée de base que je veux atteindre, que je veux réaliser, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose. En fait, il s'agit souvent de quelque chose à propos de quoi j'ai des questions. Je me pose des questions. Et donc, il y a une sorte de tension autour de cela. Et puis après, ben voilà, ça se réalise. Ce que j'ai aussi trouvé très chouette à propos de ces 1000 images, c'est d'entendre parler de ces 1000 images. Parce que pour moi aussi, la tension s'articule autour d'un millier d'images. Donc ça, j'ai trouvé assez amusant.
Comment est-ce que vous travaillez concrètement, peut-être pour rentrer plus précisément, non pas dans votre manière de penser, mais votre manière de faire, Batia Sutter? On parlait avec Abbé Warburg de la manière dont il a organisé dans son atlas des images qu'il prenait ailleurs. Vous les prenez où? Vous les prenez comment? À quel rythme? Comment portez-vous votre attention sur toutes ces images pour que, par un certain chemin, elles se retrouvent dans vos expositions, dans vos livres et dans votre travail?
En fait, j'ai une archive énorme de vieux livres, des livres d'art, des livres de culture, des livres exclusifs thématiques, mais également beaucoup de revues, de magazines. En fait, tout m'intéresse de la même manière, et ça fait 20 ans que je les collectionne, ces œuvres, ces livres du monde entier, et donc je scanne des images de cela, donc j'ai des archives énormes scannées. Moi, je sors aussi des...
En fait,
les choses m'arrivent. Et c'est ça que je trouve si intéressant. On a beaucoup plus de surprises et de constellations intéressantes quand on laisse les choses se passer plutôt que quand on recherche des images ou qu'on fait une recherche consciente. En fait, c'est une sorte d'aventure à chaque fois.
Au sous-sol, dans cette deuxième partie de l'exposition au Bal à Paris, il y a des images qui sont punaisées légèrement au mur et puis ensuite on peut s'installer dans des grands poufs noirs pour observer un diaporama. Et moi, hier soir, je n'arrivais pas à partir de ce diaporama. Je ne savais pas combien de temps il durait, mais j'avais l'impression que ça pouvait être infini. Que c'était quelque chose qui me montrait la possibilité infinie des images. Et j'en étais à la fois débordée, heureuse, peut-être un peu inquiète. Comment avez-vous travaillé ce diaporama-là ?
En fait, j'y ai travaillé assez longtemps. Au début, il y avait 5 fois autant d'images qu'il n'en est resté à la fin. Donc, j'ai fait un grand tri, j'ai poli, j'ai cherché des ponts, des transpositions qui font qu'il y ait des choses dans l'imagination, dans le cerveau. En fait, c'est un jeu avec le cerveau. En fait, le cerveau ne comprend plus très bien ce qu'il voit. Et il y a une sorte de réflexe qui fait qu'il veut compléter cela. Et c'est ça qui rend les choses passionnantes à regarder. Et alors il se passe souvent quelque chose de nouveau quand on voit les choses pour la deuxième fois, si on est un petit peu en avant, en arrière, dans le diaporama. En fait, ça dépend aussi de l'effet de surprise.
C'est pas la première fois que vous évoquez le cerveau, la manière dont notre cerveau vient compléter des images, la manière dont notre imaginaire est presque une sorte de partie invitée à votre travail, Batia Sutter. Est-ce que c'est un intérêt que vous avez porté loin, je sais pas, en vous penchant sur les neurosciences, en allant rencontrer des scientifiques, pour essayer de comprendre peut-être plus avant la manière dont notre œil et notre cerveau regardent?
En fait, je profite beaucoup de la liberté de l'artiste, donc je ne suis vraiment pas une scientifique, mais je suis en effet très intéressée par ce qui se passe dans notre cerveau, par la mesure par laquelle notre cerveau peut être influencé par le passé, par des choses naturelles comme l'instinct de chasse, par exemple. Je pense que nous avons encore une manière très animale de réagir à certaines choses. Et donc cet intérêt pour des choses rondes, c'est quelque chose qui est enfoui très profondément dans notre système. Et ce qui est très important pour moi également, c'est comment nous fonctionnons actuellement avec tous ces réseaux sociaux. En fait, je pense qu'on est très, très influençable et ça m'intéresse très, très fort. Et c'est pour ça que je veux aussi travailler avec des images anciennes. Je veux utiliser des images tout à fait différentes que toutes ces images dont nous sommes assaillis pour le moment. Et je veux voir quelle est la différence de réaction par rapport à ces images. Et je vois que les gens sont très contents de voir des images finalement très tangibles. En fait, qu'ils ont besoin de voir de telles images. Parce que c'est très important de voir comment nos systèmes réagissent quand nous sommes vraiment assaillis par un très grand nombre d'images. Ça, c'est quelque chose au contemporain, qu'on n'a pas vraiment le temps de réfléchir sur ce qu'on a vu. Tout passe très très vite. Et ça, ce sont des choses qui actuellement sont centrales pour moi et aussi dans le fait de collectionner toutes ces choses qui jouent entre elles, qui se correspondent entre elles.
C'est fou parce que vous mettez des mots sur quelque chose qui se passe en effet dans ce moment de l'exposition. On voit des choses dont on ne savait pas qu'on avait besoin. On voit des images qui viennent combler un désir ou un manque et qui, je ne sais pas comment le dire de manière plus élaborée, mais nous font du bien. Enfin, ça fait du bien de voir ces images-là. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi ? Sachant que peut-être pour être...
En fait, pour moi, c'est également un grand secret, très mystérieux. La grande surprise avec mon livre, c'est que je pensais que ce n'était qu'à moi que ces images faisaient du bien, que c'était ma collection. Mais peu à peu, j'ai réalisé que beaucoup de gens réagissaient positivement. Et donc, j'ai décidé de rechercher complètement, de développer complètement, en fait, ce concept. Et d'un côté, je trouve que c'est très chouette de pouvoir donner des choses, de voir que les gens peuvent profiter, jouir de quelque chose, avoir du plaisir de quelque chose que je donne. Et d'un autre côté, je voudrais en savoir plus ce qui se passe derrière ces images, ce qui se cache derrière les images. Et que ça doit avoir un lien avec la structure de l'image. Il doit y avoir une structure dans l'image qui nous apaise. Peut-être que ça a à voir avec la phase quand on s'endort, ou la phase du REM, quand les yeux roulent dans le cerveau. Et c'est à ce moment-là que le cerveau se détend complètement. Et je pense que ça, c'est également applicable à ce qui se passe quand on regarde les images sur les réseaux sociaux. Ça touche aussi nos yeux, notre regard. Et donc, je pense que ce sont des choses très intéressantes à rechercher, à approfondir.
À force de souffrir, je perdis les limites de mon corps et me démesurais irrésistiblement. Je fus toute chose, des fourmis surtout, interminablement, à la file, laborieuse et toutefois hésitante. C'était un mouvement fou. Il me fallait toute mon attention. Je m'aperçus bientôt que non seulement j'étais les fourmis, mais aussi leur chemin. Car de friable et poussiéreux qu'il était, il devint dur, et ma souffrance était atroce. Je m'attendais à chaque instant qu'il éclatât et fût projeté dans l'espace. Mais il tint bon. Je me reposais comme je pouvais sur une autre partie de moi, plus douce. C'était une forêt, et le vent l'agitait doucement. Mais vint une tempête, et les racines pour résister au vent qui augmentait me forèrent. Ce n'est rien, mais me crochetèrent si profondément que c'était pire que la mort. Une chute subite de terrain fit qu'une plage entra en moi. C'était une plage de galets. Ça se mit à ruminer dans mon intérieur et ça appelait la mer. La mer. Souvent je devenais boa, et quoique un peu gêné par l'allongement, je me préparais à dormir ou bien j'étais bison et je me préparais à brouter. Mais bientôt d'une épaule me venait un typhon. Les barques étaient projetées en l'air, les steamers se demandaient s'ils arriveraient au port, l'on n'entendait que les SOS. Je regrettais de n'être plus boa ou bison. Peu après, il fallait me rétrécir jusqu'à tenir dans une soucoupe. C'était toujours des changements brusques. Tout était à refaire, et ça n'en valait pas la peine. Ça n'allait durer que quelques instants, et pourtant il fallait bien s'adapter. Et toujours ces changements brusques. Ce n'est pas un si grand mal de passer de rhomboèdre à pyramide tronquée, mais c'est un grand mal de passer de pyramide tronquée à baleine. Il faut tout de suite savoir plonger, respirer, et puis l'eau est froide, et puis se trouver face à face avec les harponneurs. Mais moi, dès que je voyais l'homme, je m'enfuyais. Mais il arrivait que subitement, je fusse changé en harponneur. Alors j'avais un chemin d'autant plus grand à parcourir. J'arrivais enfin à rattraper la baleine. Je lançais vivement un harpon par l'avant, bien aiguisé et solide. Après avoir bien fait amarrer et vérifier le câble, le harpon partait, entrait profondément dans la chair, faisant une blessure énorme. Je m'apercevais alors que j'étais la baleine, je l'étais redevenu, c'était une nouvelle occasion de souffrir, et moi je ne peux me faire à la souffrance. Après une course folle, je perdais la vie. Ensuite je redevenais bateau, et quand c'est moi le bateau, vous pouvez m'en croire, je fais haut de toutes parts. Et quand ça va tout à fait mal, alors c'est sûr, je deviens capitaine. J'essaie de montrer une attitude de sang-froid, mais je suis désespéré. Et si l'on arrive malgré tout à nous sauver, alors je me change en câble, et le câble se rompt, et si une chaloupe est fracassée, justement j'en étais toutes les planches, je coulais, et devenu échinoderme, ça ne durait pas plus d'une seconde, car désemparé au milieu d'ennemis, dont je ne savais rien, il m'avait tout de suite, me mangeait tout vivant, avec ses yeux blancs et féroces qu'on ne trouve que sous l'eau, sous le salé de l'océan, qui avive toutes les blessures. Ah, qui me laissera tranquille quelque temps. Mais non, si je ne bouge pas, je pourris sur place. Et si je bouge, c'est pour aller sous les coups de mes ennemis. Je n'ose faire un mouvement. Je me disloque aussitôt pour faire partie d'un ensemble baroque avec un vice d'équilibre qui ne se révèle que trop tôt et trop clairement.
Batia Sutter, c'est vous qui nous donnez la chance d'entendre ce texte d'Henri Michaud. Encore des changements, c'est un extrait de l'espace du dedans que vient nous lire Romain de Bec de Lièvre. Il n'a pas lu l'exacte totalité du texte que vous reportez à la fin de votre livre, mais une grande partie. Question toute bête, pourquoi choisissez-vous que ce texte conclue votre livre ?
Nou, dat is aangedragen door Diane.
En fait, ça vient de Diane Dufour. C'est grâce à elle que j'ai découvert ce texte et j'ai trouvé que c'était un enrichissement incroyable pour ce livre et j'en étais ravie. Et c'est ce que je voulais dire avec l'écriture. On utilise différents process où il se passe des choses très différentes. On parle aussi d'époques différentes.
C'est un texte qui insiste beaucoup sur l'intensité des changements. Il y a quasiment un changement de forme, des métamorphoses, tous les trois mots, au détour d'une phrase, dans un virage après une virgule. C'est presque les métamorphoses d'Ovide en accéléré. Ça nous parle beaucoup, en effet, merveilleux choix de Diane Dufour, de ce qu'on peut vivre une fois qu'on a feuilleté ce très grand livre où les formes changent, se répondent, nous emmènent aussi dans des rêveries, Batia Sutter. Alors peut-être nous parler de l'expérience que vous proposez avec le livre, qui n'est pas un catalogue, qui est quelque chose que vous proposez comme un prolongement, là aussi, quelque chose d'infini dans le temps et qui vient à côté de l'exposition. Alors quelle place tient le livre dans votre travail ?
Donc, le livre est un travail en soi. J'ai déjà fait les deux encyclopédies. Je les cite souvent et j'en montre des images. Et dans l'intermédiaire, je veux en fait faire des livres page par page qui sont plus simples mais qui sont plus intuitifs, mais où on insiste en fait sur un thème ou une situation. Donc maintenant les choses rondent.
Et le livre en tant que tel, ça c'est par exemple ce livre-là, mais le livre pour vous, les livres d'images ou les autres livres, ils ont quoi comme place ou comme force que n'a pas l'exposition dans sa possibilité de montrer des images ?
Donc un livre donne énormément de liberté parce qu'il est intemporel et il peut voyager, il n'est pas attaché à un endroit. J'adore en fait le médium du livre, il me rend libre parce que je peux décider comment et quand je fais quelque chose et je contrôle complètement de quoi ça a l'air à la fin.
Donc, really tight.
En fait, c'est une manière de gérer les obstacles de la réalité. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans le livre, c'est qu'on est son propre capitaine dans le rythme de regarder les choses. On peut commencer au début, on commence à la fin, on peut revenir sur les images. Donc, en fait, on peut avoir une très grande œuvre à la maison, on peut le regarder tant qu'on veut, on peut l'offrir en cadeau. En fait, le livre, c'est un des médiums les plus beaux qui existent. Et maintenant, évidemment, le livre a toute nouvelle charge parce qu'en fait, le livre est devenu pratiquement superflu et c'est ce qui le rend encore plus intéressant.
Je dirais que la fascination de la photographie, c'est toujours pour moi la fascination du « ça a été ». Cela a été. Donc finalement, ce qui me fascine dans la photo, et vraiment les photographies me fascinent, c'est quelque chose où la mort a son mot à dire, certainement. C'est peut-être une fascination un petit peu nécrophilique, pour dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas ? C'est une fascination de ce qui a été mort, mais qui se représente comme voulant être vivant. Alors, il faudrait, je le répète, essayer de retrouver toute une esthétique générale de la fascination, qu'on retrouverait aussi des correspondants dans le texte, par exemple, un temps grammatical comme l'imparfait, qui est aussi pour moi le temps de la fascination, qui est si important dans les romans, précisément, qui est le temps du « ça a été », mais en tant qu'on le désire, en tant qu'on l'a désiré, en tant qu'il est là et qu'en même temps, il n'est plus là. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, en commençant, que l'image était douloureuse en un certain... La photographie est mais douloureuse, enfin. Les plus belles photographies me sont douloureuses, parce que je dirais que l'image, c'est toujours un petit peu ce dont je suis exclu. La définition que je donnerais de l'image, c'est ça, c'est ce dont je suis exclu. Vous voyez, ce qu'il y a de fascinant dans la photographie, c'est que justement, c'est un art mécanique, et que la mécanicité de cet art atteste tout au moins fictivement la vérité, la réalité de ce qui s'est produit. Donc le « ça a été » est absolument incontestable dans la photographie. Et c'est ça qui rend la fascination d'une photographie bouleversante. Je ne crois pas du tout qu'une photographie soit faite, même dans la conscience public des gens qui font, des amateurs qui font de la photographie, le problème n'est pas du tout de représenter quelque chose, n'est-ce pas ? C'est de se rappeler, c'est de se remémorer en tant que le souvenir est un jeu fondamental avec le mourir.
Archives de Roland Barthes 1977, avec laquelle on termine cette discussion, Batia Sutter, peut-être pour supposer que ce n'est pas du tout votre rapport à l'image. Peut-être que votre travail n'a rien à voir avec l'idée de « ça a été », rien à voir avec l'idée que le souvenir s'articule forcément avec le mourir. Est-ce que je me trompe ?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag.
Oui, c'est une question difficile.
Want het is natuurlijk wat hij zegt met dat necrofiele, of dat is iets wat ik heel
parce
erg herken.
Parce que ce côté necrofiel, c'est quelque chose que je reconnais.
Mélancolisch, denk ik.
La photo, c'est quelque chose de mélancolique.
Wel echt over dat de tijd vergaat. En voor mij heeft
het
ook een heel
du passage du temps.
Aspect, want ik vind
et donc, il y a en quelque sorte un aspect alchimique.
Dat wij licht
quelque
en tijd
chose magique, parce qu'en en fait, on peut
stoppen.
Fixer un moment du temps.
Maar,
donc, le moment qui passe, le temps qui passe, on peut le fixer. Mais en fait, j'aime bien dépasser cela. Donc, j'aime bien utiliser des images égyptiennes et faire comme si elles dataient d'hier.
Donc,
ça, ce n'est pas une contradiction pour moi. Mais en fait, j'ai les deux côtés. Les deux aspects sont très présents pour moi.
Merci beaucoup, Batia Sutter, d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à Marlies Krüger qui a traduit vos propos. On peut donc voir votre exposition Radial Grammar en ce moment au Bal à Paris. C'est jusqu'à la fin du mois d'août, le 26 août, si je ne me trompe. On peut aussi aller à la gare Montparnasse. Grâce à Gare et Connexion, une installation est visible sur l'un des quais. Je ne sais toujours pas si c'est 14 ou 24. On peut encore se rendre au Centre culturel suisse pour voir une autre partie de votre travail, consacrée notamment à cette fameuse collection de votre tante. Sans oublier ce merveilleux livre, évidemment.
Il y a les regards de ceux que l'on croise et ce que l'on habite. Avant d'avoir eu le temps de voir, j'ai fermé les yeux trop vite. Tous les visages parlent d'eux-mêmes avant qu'on les connaisse. Le mien t'a dit va-t'en, cours au loin, je ne serai que tristesse. Il y a les sourires de ceux que l'on croise et ceux que l'on habite. Avant d'avoir eu le temps de boire, tu as craché trop vite. Tous les visages parlent d'eux-mêmes avant qu'on les connaisse. Le tien m'a dit va-t'en, cours au loin, je ne serai que tristesse.
Au son ce soir, c'était Olivier Dupré à la réalisation, Lise-Marie Barré, Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain de Bec de Lièvre m'aident à penser et préparer cette émission. Vous pouvez la réécouter quand vous voulez sur franceculture.fr et en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. À demain, 21h.
Prétextant notre ivresse, tous les visages parlent d'eux-mêmes avant qu'ils se connaissent. Les nôtres ont fait semblant jusqu'à la fin, aidés de fausses promesses.